Alors, je suis Alice Bossua et je suis co-organisatrice de la Semaine des Arts avec Cheyenne La Monarca, Lauriane Torlasco et Adrien Lecause. Et moi, j'étais particulièrement chargée de communication sur tout le projet, donc tout ce qui est visuel, les affiches, les livrets d'exposition. Pour la Semaine des Arts Numériques, on propose des productions de chacun des étudiants du Master Création Numérique. Les œuvres qui sont exposées, c'est des représentations des recherches théoriques et du coup qui sont des recherches plastiques des sujets de recherche de chacun des membres du master. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose d'assez diversifié au niveau des productions.
C'est vrai qu'on voit énormément de choses. Question peut-être maintenant stupide aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut créer avec le numérique ?
Bien sûr qu'on peut créer avec le numérique, on peut faire plein de choses avec le numérique. On peut le mélanger à plein d'autres médiums. C'est ça que je trouve génial en fait, c'est que le numérique est vraiment partout et on peut baser notre création sur quelque chose de très simple, rajouter du numérique dedans et créer quelque chose de complètement nouveau. Comme par exemple là on a des plantes qui sont exposées, c'est quelque chose de très simple. Et ces plantes là elles sont en fait connectées à des capteurs qui retransmettent leur image sur une projection et je trouve ça incroyable moi ce qu'on peut faire avec quelque chose de tout simple. On a de la projection, etc. Et je pense que le numérique ça ouvre vraiment à différents horizons au niveau de la création.
Alors qu'est-ce que nous sommes en train de regarder là ?
Il y a un dessin que l'ordinateur complète. Elle après elle vient le recompléter par-dessus, il y a des échanges comme ça entre l'un et l'autre. Et au final on voit la projection d'un côté et la toile qu'elle a fait avec le résultat final, des échanges entre les deux.
C'est quoi les motivations? Pourquoi elle a voulu faire ça?
Je pense qu'elle s'intéresse au processus de l'intelligence artificielle et de l'art en fait. Souvent, quand on parle d'ordinateur et d'intelligence artificielle, on pense à des procédés techniques, à l'économie, à ce genre de décisions. Et avec l'art, on n'a pas tant que ça de recherche de ce côté-là. Du coup, je pense que c'est intéressant de voir en quoi une intelligence artificielle peut aider à travailler avec un artiste.
L'intelligence artificielle, c'est encore un concept un peu flou. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut comprendre l'art ?
Alors, pour moi, dans ce cas-là, c'est vraiment un outil. C'est pas l'ordinateur en lui-même qui fait l'œuvre, c'est vraiment l'artiste qui se sert de l'IA pour compléter son travail et engager un processus un peu inédit. Je pense pas que tout seul, ça reste un outil pour moi. Ouais.
Je pense que ces œuvres qui sont exposées sont accessibles de différentes manières. Quelqu'un qui ne connaît rien à l'art et rien à l'art numérique peut arriver devant les œuvres et être touché par elles comme n'importe quelle personne qui arrive devant une œuvre, en fait, qui va juste voir l'œuvre avec sa sensibilité personnelle et ressortir avec quelque chose qui sera né de la rencontre avec l'œuvre. Et dans une seconde lecture, si on connaît mieux l'art numérique, si on a quelques références, on peut avoir justement différentes strates dans la compréhension de l'œuvre qui la rend encore plus appréciable. Donc oui, on peut apprécier et comprendre l'art numérique sans avoir les bases, je dirais. Et on peut encore plus l'apprécier en ayant le bagage théorique derrière, quoi. Alors initialement, nous, la Semaine des Arts Numériques, c'était pas pour les 50 ans. Et ensuite, donc, on a appris l'existence des 50 ans. Et Kylian Le Quéré s'occupe, lui, de la régie des 50 ans. Il a décidé d'organiser deux soirées de performance avec vraiment différentes productions. Ça va du défilé à la performance musicale, performance sonore, performance auquel on pourra assister à partir de ce soir 19h30. Et pour le moment, c'est aussi une surprise pour moi. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble et je suis curieuse de voir ce que ça va donner, mais il sera mieux à même que moi d'en parler.
Alors on est juste devant ton travail, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors c'est une peinture numérique, du coup une peinture réalisée sur ordinateur, avec des logiciels comme Photoshop ou autre. Et ce que je voulais faire dans cette exposition, c'était faire un lien avec le jeu vidéo, parce que quand on parle d'art numérique, le lien le plus immédiat que moi je fais, c'est le lien avec les jeux vidéo, et du coup on voit un univers de jeux vidéo, et je tenais à vraiment faire cette référence à un tableau comme de la peinture classique, mais qui fait référence à un univers de jeux vidéo, et c'est un créateur que j'aime beaucoup, en plus Hidetaka Miyazaki, c'est son univers, et rajouter des petits éléments d'animation comme ça, parce qu'on voit que certains éléments bougent en fait, c'est des choses qui sont possibles avec les technologies numériques en fait, d'hybrider des médiums, il y a de la peinture, il y a de l'animation, il y a du son aussi, donc voilà, c'était un peu mon intention avec ce travail-là.
Tu as utilisé Photoshop, quel autre logiciel également ?
Alors Photoshop, c'est vraiment toute la partie peinture, donc tout le décor, les personnages. After Effects, c'est ce qui m'a permis de faire l'animation en fait, de faire bouger les personnages et de rajouter du son. Voilà.
Ouais, mais effectivement, on voit bouger, quoi. Et tu as rajouté également une installation sonore.
Oui, pour renforcer l'atmosphère en fait, dans cette idée-là de créer un tableau et d'utiliser plus que simplement de la peinture pour créer une ambiance, du coup, la respiration des personnages et l'atmosphère sonore en fait, du lieu dans lequel ils sont. Voilà.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile à réaliser de cette œuvre ?
Le plus difficile, c'était l'animation, parce que j'en avais pas fait beaucoup. Du coup, il a fallu que je fasse des recherches un petit peu pour voir comment ça fonctionnait. Et puis, ouais, la mise en place, de retravailler certaines choses que j'avais mal pensées à l'origine et que j'ai dû corriger. Mais du coup, c'était vachement intéressant aussi.
Et est-ce que tu comptes refaire quelque chose de similaire pour, pas forcément la semaine des arts numériques, mais pour une autre édition, un autre événement ?
Oui, parce qu'au final, si j'avais fait de l'animation, c'était aussi pour essayer. Maintenant que je connais un peu les bases, j'ai envie de pousser dans cette direction-là aussi. Et puis, c'est parce que ça m'intéresse, tout simplement.
Toujours en restant dans les références que tu as mis là, dans tes influences.
Oui, il y a ces références-là et puis d'autres que je vais piocher. En ce moment, je cherche beaucoup de références en référence au mythe nordique, par exemple. Du coup, des univers un peu mythiques comme ça, qui existent déjà, sur lesquels je peux baser en fait mon image. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse.
Est-ce que tu comptes aussi montrer à d'autres personnes ton travail, les initier également ?
Oui, parce que j'ai été enseignant aussi un petit peu en art plastique, du coup ça m'intéresse toujours d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, et d'où je viens, comment j'ai appris, et puis c'est toujours intéressant de partager ce genre de choses. Et puis l'avantage des technologies numériques ici, c'est qu'on peut... On peut partager une image faite sur ordinateur, que c'est beaucoup plus difficile de partager une peinture. On n'a pas du tout une peinture à l'huile, à moins de la voir en vrai, on n'a pas la même impression que si on la voit sur un écran. Alors qu'une image faite sur un écran de base, l'impression est tout de suite plus directe en fait. On a le sentiment original que ça a été fait sur un écran.
Alors je m'appelle Pierrick Veyrob, je suis étudiant en Master 1 Création Numérique à l'Université Rennes 2. Pour moi en fait quand on est étudiant en art, c'est quand même vachement important de commencer à se fréquenter à ce genre de milieu, et c'est une superbe porte d'entrée pour la création. Enfin, c'est vrai que c'est une forme d'échéance aussi, et du coup on se sent obligé de devoir faire quelque chose en temps et en heure. Et c'est super stimulant de pouvoir exposer et de pouvoir aussi confronter ses œuvres au public. Alors moi, j'expose un petit jeu vidéo qui s'appelle Parthenos, que j'avais déjà exposé il y a un mois pour l'événement La Cup est pleine de Code 404. D'ailleurs, on avait fait une chronique sur Scilab. Donc c'est une œuvre qui parle de l'enfermement que certaines personnes... peuvent ressentir quand elles sont affectées à un foyer en fait. Bon, typiquement c'est le cliché de la femme au foyer, c'est quelque chose. J'ai décidé de travailler sur des choses vraiment très clichés pour que tout le monde identifie très vite ce que la problématique que je voulais aborder. Et donc cette œuvre là en fait questionne l'enfermement que certaines personnes peuvent ressentir quand elles sont affectées à de telles tâches. Je travaille principalement sur la musique en fait, je travaille surtout sur l'enfermement sonore et la création de nouveaux espaces dans le jeu vidéo. Et donc là, à la fois, on a une boucle musicale qui se répète en permanence et qui s'enrichit uniquement si le joueur consent à être enfermé, en fait, seulement s'il réalise les tâches qu'on lui donne à faire, donc qui sont des tâches vraiment horribles normalement, mais pour obtenir la récompense de la musique, le joueur est obligé de passer par là. Il y a aussi une porte pour pouvoir sortir, sauf qu'on se rend compte que quand on sort, on est re-téléporté à l'intérieur de la pièce. Donc ça ne sert à rien et qu'on ne peut pas sortir de cet environnement-là. Que c'est quelque chose que je pense qu'on peut tous ressentir à un moment, d'être enfermé dans un environnement. Pour moi, c'est vraiment dans mon appartement. Enfin, je peux me retrouver très angoissé à être seul dans mon appartement, à pas avoir envie de sortir non plus, mais pas avoir envie de faire quoi que ce soit à l'intérieur. Et je pense que c'est aussi le jeu vidéo, c'est une bonne approche là-dessus, parce que on est enfermé dans un média, on est enfermé dans un écran, on est enfermé dans le corps d'un personnage, dans les possibilités qu'il a. Si notre personnage n'est pas capable de sauter, on peut se sentir frustré par exemple. Et donc je pense que c'est le jeu vidéo est un support qui peut générer énormément de frustration, et pour moi elle n'est pas encore assez exploitée d'un point de vue artistique en fait. Donc, par exemple, dans un jeu, ce qui peut être très difficile, on peut être énormément frustré, mais ça va être quelque chose d'assez négatif parce que le but d'un jeu vidéo, normalement, c'est de s'amuser. Mais quand on a une vocation artistique, on peut essayer de faire ressentir d'autres choses au spectateur. Et là, pour le coup, c'est la frustration d'être enfermé. Ce qui est assez intéressant dans ce genre d'exposition, c'est qu'à la fois, on voit le résultat final aujourd'hui, mais pendant les 5-6 mois avant, on a pu voir le processus qui a amené jusqu'à elle. Et ça fait vachement plaisir de voir le résultat final. Et des fois, c'est un petit peu marrant parce qu'on voit certaines solutions qui ont été abordées par les artistes pour résoudre des problèmes qu'ils ont pu avoir au cours de leur création.
Alors bonjour, je suis Cheyenne Lamonarca, je suis en master de création numérique et j'ai fait la régie pour la Semaine des Arts pour notre exposition. Bon, on va dire que c'est notre exposition annuelle puisque manifestement tous les ans le master fait sa petite expo. Et je suis aussi exposante durant cette semaine et je donne une conférence dans le cadre des journées d'études qui sont organisées par les doctorants qui étaient précédemment dans notre master. Alors ce qu'on voit là, c'est une série qui s'appelle... Enfin, c'est une très longue série de 15 animations, ici on en voit 3. La série totale s'appelle Flèche 5.0 et ce triptyque de la série s'appelle Carnation. Donc on a Carnation 1.0, Carnation 1.2 et Carnation 1.3. Alors ce projet en particulier, je vais plus particulièrement parler du triptyque puisque c'est celui qui est présenté là. Ce triptyque, c'est une réflexion sur l'impact des technologies sur le corps. Et du coup, cette réflexion sur l'influence physique et physiologique que vont avoir, ou que ont déjà d'ailleurs, les technologies sur nos corps. Je pense notamment, on sait aujourd'hui que les écrans abîment les yeux, etc. C'est ce genre de questionnement que je me pose avec ce triptyque. Et il y a aussi toute une réflexion autour de la maladie, qu'elle soit physiologique, chronique, déclenchée, psychologique, ou qu'elle soit sociale. C'est des questions qui m'intéressent beaucoup et toute ma pratique s'oriente sur cet imaginaire de la maladie que je développe et que je présente dans tous mes travaux, en fait, depuis déjà plus de 5 ans. Ça fait 5 ans que je travaille sur ces questions.
C'est très angoissant, en effet, quand on voit ça, en même temps, assez fascinant. Et petite question personnelle, à ton avis, à quoi va ressembler l'homme du futur, l'homo numericus?
Alors, je ne sais pas si je l'appellerais homo numericus, mais c'est un latinisme approximatif qui est assez intéressant, ma foi. Aujourd'hui, on parle plus de transhumanisme ou de post-humain.
Comment est-ce qu'on va évoluer grâce aux technologies, ou peut-être à cause des technologies?
Je ne sais pas si c'est à cause ou... moi, je dirais que c'est avec. Enfin, finalement, la plupart du temps, c'est un peu de notre propre gré, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont quand même très informés sur les risques, sur tout l'aspect négatif, mais il y a aussi un aspect très positif dans le numérique. Et j'ai une vision... Enfin, je présente une vision un peu dystopique de ça, mais c'est une sorte de... Enfin, en fait, je le vois pas totalement comme ça. J'utilise les nouvelles technologies, j'ai un smartphone, j'utilise Google tout en sachant très bien ce que je fais en utilisant Google. Donc c'est de mon plein gré. Donc je sais pas à quoi on ressemblera. J'imagine que on aura des modifications physiologiques importantes. Peut-être passant temps, on parlait de pouces plus larges. Moi, je dirais qu'on aura des pouces plus fins pour s'adapter à la finesse des écrans.
J'ai entendu ça, ouais. Ouais. Des mains plus fines, des
yeux plus grands. Je pense des yeux plus grands, des mains plus fines. Sincèrement, je pense qu'on sera mort avant d'avoir changé à ce point-là, mais... Oui, moi aussi, sincèrement. Mais, ouais, modification physiologique, et puis surtout dans les mentalités, il y a une perpétuelle évolution, de la même manière que j'ai remarqué l'obsolescence programmée des objets, j'ai remarqué l'obsolescence programmée des relations humaines, qui finalement, tout est dans cette continuité enfin, j'ai l'impression que notre société grandit avec, évolue de la même manière que les technologies, donc à 100 à l'heure, ça change tous les jours, et tous les jours, quelque chose se brise et on s'en fiche, on change.
Et quelque chose aussi se construit.
Et quelque chose se construit, ouais, aussi. Du coup, je parle aussi de ça dans mon travail. Il y a l'idée de déconstruction, mais surtout de construction. Il y a toujours quelque chose qui naît. Comme je disais, il y a cet aspect un peu dystopique, mais il y a aussi cet aspect de nouveauté. C'est autre chose. Il n'y a pas de nostalgie dans mon travail. Je ne suis pas nostalgique des années 1960 que je n'ai même pas vécu. Alors que pourtant, j'en ai une forte image et un fort idéal. Je pense que c'est une période de l'histoire de l'humanité que j'idéalise beaucoup et que j'aurais aimé vivre. Mais j'en suis pas nostalgique, ou je suis pas non plus nostalgique des années 90, contrairement à Mathilde et son travail.
Avec
les Furby, c'est les Furby. Ouais. Et puis toute la pop culture. C'est Princesse Mononoke, donc. D'un côté, on a le Japon, et de l'autre côté, on a plutôt la pop culture américaine. C'est Star Wars, un peu toute notre enfance, quoi, années 80-90. Je suis pas du tout nostalgique de ça, mais je suis plutôt contente d'avancer vers l'avenir, tout en sachant qu'on va droit dans le mur, mais... Ou pas, d'ailleurs, je sais pas. Des fois, j'ai des petites lueurs d'espoir. Mais en tout cas, ouais, c'est de tout ça dont j'essaie de parler dans mes travaux.
Tu te tournes quand même un petit peu vers l'avenir, notamment vers la réalité virtuelle. Est-ce que tu penses qu'elle va prendre une place un peu plus importante dans notre vie, dans nos médias ?
Sincèrement, je pense que ça mettra encore une bonne vingtaine d'années avant que tout le monde ait ça chez soi. Enfin, au moins 15 ans, quoi. Parce que finalement, c'est... Alors, dans notre milieu d'études sur les nouvelles technologies, oui, on en parle beaucoup, oui, on les utilise beaucoup, oui, on les connaît très bien. Et en fait, c'est absolument pas le cas du public. Encore aujourd'hui, j'ai fait tester mon application plusieurs personnes et j'utilise un Leap Motion. Et le Leap Motion, c'est la technologie qui permet d'avoir le mouvement de ses propres mains dans l'environnement virtuel que j'ai développé. Et les gens sont toujours aussi étonnés, alors que ça fait au moins 4 ou 5 ans que cette technologie est quand même assez démocratisée. Et il y a toujours cette surprise, ce rapport au corps réel, au corps virtuel qui est pas net, que les gens n'ont pas tout à fait intégré, alors que pourtant ils vivent là-dedans en fait, et ils sont déjà là-dedans. Facebook, c'est déjà un environnement en réalité virtuelle, sauf que c'est peut-être un peu moins immersif, ou alors on se rend pas compte de l'aspect immersif de... c'est déjà présent, mais ça n'a pas l'aspect du casque réalité virtuelle. Et au final, je pense que le casque réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est encore quelque chose de très élitiste, qu'on voit parfois en centre d'art contemporain. La dernière fois que j'ai vu ça en centre d'art contemporain, j'ai fait Laval virtuel il n'y a pas longtemps, mais c'était au Palais de Tokyo, à Paris, il y a un ou deux ans. C'était l'expo sur art et sciences. C'était une super expo. Et sinon, ouais, à part là, les gens n'ont pas vraiment l'occasion de tester ces choses-là. Alors oui, il y a des... C'est ce que j'appellerais de l'ordre du manège. Et c'est des petites attractions touristiques dans Paris, par exemple. Il y a plein de petits shops où on peut tester des applications qui sont juste ludiques, qui n'ont rien d'artistique. Mais bon, par ce biais-là, ouais, les gens peuvent avoir un petit peu de contact avec cette technologie. Mais au final, il n'y a pas de questionnement sur cette technologie. Alors, c'est un peu la différence qu'il y a avec le fait de faire de la recherche. C'est le questionnement qu'on met derrière. Donc, c'est pour ça que les journées d'études, c'est super intéressant, parce qu'on soulève plein de questions à plusieurs. On ne fait rien avancer du tout, finalement, mais au moins, on se pose les questions, c'est déjà pas mal. Et sincèrement, je ne sais pas si spécifiquement la réalité virtuelle sera dans nos foyers. Après, je pense que beaucoup pensaient qu'Internet, ça marcherait pas non plus. Et pourtant, il y a quand même à peu près, je dirais, 80% de la population mondiale qui est couverte par Internet. Donc c'est quand même énorme.